France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Dans cette course aux Oscars, dont l'arrivée est prévue le 15 mars prochain au Dolby Theatre de Hollywood, ils ont fait une escale éclair en France et miraculeusement les voici tous les deux. Elle, réalisatrice, lui, acteur, dans notre studio et en direct ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Et bonjour Christine, bienvenue à tous.
24 minutes d'ovation à la Mostra de Venise et pas mal de larmes après la projection de votre film. Bonjour Kauter Benania.
Bonjour.
Réalisatrice de La Voix de In Rajab, le récit d'une impuissance face à une tragédie. Une petite fille palestinienne de 6 ans, piégée dans une voiture sous les tirs israéliens à Gaza en janvier 2024. La Voix de In Rajab, également Lion d'argent à la Mostra, autrement dit Grand Prix du jury, sur nos écrans depuis mercredi. Un grand film sur la dictature au Brésil en 1977 qui n'en prononce jamais le nom mais dont on ressent son climat, ses menaces à travers tous ses plans. C'est l'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Bonjour Wagner Moura.
Bonjour.
Et un immense bravo pour votre prix d'interprétation à Cannes. Wagner, Marcelo dans ce film, un héros non violent menacé de mort. L'agent secret, également prix de la mise en scène à Cannes, sortira le 17 décembre prochain. Enfin, les sorties de cette semaine de Bugonia à vie privée, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
The voice of Hind Rajab.
Il ne faisait aucun doute que la réalisatrice franco-tunisienne Kauter Benania allait, à un moment ou un autre, se lever pour chercher un prix pour ce film qui fait entendre la voix de In Rajab.
La voix de Hind est celle de Gaza elle-même. Un appel à l'aide. Le monde entier l'a entendu, mais personne n'a répondu. Sa voix continuera à résonner.
Oui, clôture de la Mostra de Venise et votre Lion d'argent, Kauter Benania. Pour ce film, la voix de In Rajab, une petite fille palestinienne de 6 ans, piégée, je le disais, dans une voiture sous les tirs israéliens et qui implore qu'on vienne la secourir à côté d'elle, les cadavres donc, tantes et cousins. Nous sommes le 29 janvier 2024. Les bénévoles de la Croix-Rouge à Ramallah reçoivent cet appel d'urgence. Ramallah est à 83 km de Gaza, il faut le préciser. Des faits réels. Vous avez écouté cette voix, vous avez pleuré, vous avez écrit. Il fallait d'urgence faire un film.
Oui, je pense. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Pour moi, c'était très important de faire ce film parce que, à l'époque, je me posais des questions sur mon métier de réalisatrice. Ça veut dire quoi, raconter des histoires quand le réel dépasse l'entendement ? Et donc j'ai entendu la voix de In Rajab et pour moi c'était comme si elle me demandait à moi de l'aide, donc je me posais la question, cette question d'impuissance justement. Que pourrait faire le cinéma ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et c'est de là où est partie l'idée de faire ce film.
Vous avez eu une réaction, vous dites, très physique, et vous avez eu envie de faire ressentir cette sensation physique au spectateur.
Oui, absolument. Je voulais partager cette sensation avec les spectateurs. Vous savez, le cinéma, c'est l'art de l'émotion par excellence. Et moi, je fais confiance à l'émotion quand elle m'envahit. Quand elle m'envahit, je sais qu'il y a un film. C'est vraiment, pour moi, le baromètre de la faisabilité d'un film. Parce qu'après, il y a tout le processus de la fabrication qui est plein de choix créatifs, techniques. Et dans ces choix, ma seule boussole, c'est cette émotion première que j'ai ressentie.
Au-delà, il y a la volonté aussi, bien sûr, de faire écouter la voix de la population gazaoui. Ça, c'est effectivement face à l'indifférence du monde.
Absolument, parce que, au fait, cette petite fille est devenue un peu, malgré elle, le symbole de Gaza, parce qu'elle appelle à l'aide pendant des heures et des heures, et on comprend, enfin, il y a une ambulance à 8 minutes d'elle. Et quand on voit le film, on comprend pourquoi il est impossible d'envoyer cette ambulance, et quand on arrive enfin à l'envoyer, l'armée israélienne la bombarde et tue deux ambulanciers. Donc le film retrace cette histoire du point de vue des travailleurs humanitaires qui sont loin, qui sont à Ramallah.
Justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire par rapport au trajet de 8 minutes, puisque ces gens regardent sur une... C'est bénévole de la Croix-Rouge, pardon. Ils regardent sur une carte, comme quand on commande un taxi, en fait, ils regardent l'avancée. Il y a 8 minutes entre les ambulances et cette voiture, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, comme l'explique le chef des bénévoles à l'oncle de la petite fille, qui lui-même est en Allemagne.
Notre ambulance est à 8 minutes de la fille. Mais pour l'envoyer, nous devons passer par la Croix-Rouge. Non, pas à Genève. Ils ont un bureau à Jérusalem. Ensuite, ils appellent le Kogat. Le Kogat, c'est une unité du ministère de la Défense israélien qui coordonne les activités dans les territoires occupés. Non, non, ce ne sont pas les soldats sur le terrain. C'est un autre intermédiaire. Les soldats sur place envoient un itinéraire sécurisé pour que notre ambulance puisse circuler sans être ciblée. Mais pas à nous directement. Ça passe par le Kogat, puis par la Croix-Rouge, qui nous transmet l'itinéraire. Mais recevoir l'itinéraire ne signifie pas qu'on a le feu vert. Le feu vert pour envoyer les ambulances, c'est une toute autre étape. Je suis obligé de suivre cette procédure à la lettre. Au moindre manquement, il pourrait tirer sur nos ambulances et dire que c'est de notre faute.
Kauter Benania, c'est kafkaïen cette procédure, et ça fait partie de la dramaturgie de votre film, bien sûr. Le tissu de la dramaturgie vient de cette urgence, cette petite fille qui demande d'être sauvée, avec des hommes et des femmes impuissants au téléphone qui vont passer leur temps finalement à avoir des informations auprès d'elle et à la rassurer. Elle n'a que 6 ans, mais elle est d'une maturité incroyable.
Absolument, elle a moins que 6 ans.
À l'époque
Oui, ouais. Et en fait, c'est pas kafkaïen, c'est pas de la bureaucratie à la soviétique.
Non.
C'est penser, au fait. C'est ce qu'on appelle vivre sous occupation. Au fait, l'occupation, c'est ça, c'est rendre la vie des Palestiniens impossible et rendre la vie de Hind Rajab, en fin de compte, vraiment impossible au sens littéral du terme. Et Hind Rajab, quand j'ai écouté la première fois les enregistrements, effectivement, elle est d'une maturité incroyable. C'est-à-dire, à un certain moment, longtemps, elle propose des solutions pour qu'on la sauve. Elle leur dit, appelez mes oncles, envoie ton mari.
Parce que, par exemple, il y a une femme qui lui dit, tu fais quoi à l'école? Comment elle s'appelle ton école? Mais elle s'en fiche, elle est dans une autre urgence.
Elle est encore en maternelle,
oui.
Elle est dans la classe papillon.
Papillon.
Voilà, donc on voit l'âge de la petite, et quand on met en perspective et on pense à ce qu'elle a vécu ces dernières heures, être coincée dans une voiture criblée de balles, au milieu de 6 cadavres, son oncle, sa tante et ses 4 cousins, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement.
Oui, au début, elle dit qu'ils dorment, mais en fait, elle sait très bien qu'ils sont morts.
Elle rectifie tout de suite. On a l'impression qu'elle a grandi. On a un laps de temps très rapide.
Alors après, il y a un procédé cinématographique, effectivement. C'est pour ça que c'est un document vidéo et sonore. À partir de ce document sonore qui est réel, la vraie voix de la petite fille, plus des enregistrements que vous avez récupérés auprès de la Croix-Rouge, vous avez fait travailler des comédiens palestiniens pour la plupart avec la voix de la petite fille dans leur oreille. On va écouter un extrait de la bande-annonce du film.
Allô, Tawara Hilal Al-Ahmar Ramallah, Daf Al-Gharbiya, Amar Ma'ak, Tfaddal. انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل
انا عمي هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟
كنت اهلي ومين معك؟
الو
On imagine que le tournage a été éprouvant pour ces acteurs, mais pour tout le monde. Je pense au tournage, Kauter, mais je pense aussi au montage. Vous avez monté pendant des heures et des jours cette voix. C'est complètement bouleversant.
C'est complètement bouleversant et moi, en général, quand je fabrique un film, au bout d'un moment, comme je l'ai vu et revu, j'ai plus il n'a aucun impact sur moi, sauf celui-là. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'assiste aux projections, je pleure. Parce que sa voix, c'est quelque chose qui a... c'est une voix qui encapsule en elle sa petite voix très fragile, une honte de ce qui s'est passé.
Vous avez... À quel moment vous avez décidé de garder la voix ?
Oui.
Dès le début, je pense, moi d'abord quand j'ai écouté tous les enregistrements, j'ai appelé sa mère. Qui à l'époque était à Gaza, parce que je ne pouvais pas faire ce film sans l'accord de la maman. Et elle m'a tout de suite dit, je ne veux pas que ma fille soit oubliée, parce qu'il y a beaucoup de morts à Gaza. Donc on est dans quelque chose de très... de l'ordre de l'amnésie. Donc elle m'a dit, je ne veux pas que la voix de ma fille soit oubliée. Et pour moi, cette petite fille, elle avait une voix très présente et très, très vivante, et on lui a arraché sa voix. Donc ma première obsession, c'était de lui rendre hommage, de mettre cette voix dans une forme cinématographique impactante pour faire résonner sa voix.
Et sa photo également, tout comme, merci pour eux, la photo des ambulanciers qui ont péri dans ce... qui ont
dans
péri,
cette mission, dans cette ils mission, sont partis la chercher, ils étaient à quelques mètres, et on l'entend dans l'enregistrement, l'ambulancier il dit, il cherche la voiture dans le noir de Gaza, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il dit, ah la voilà, et à peine il dit, ah la voilà, on entend la bombe dans l'enregistrement.
Vous avez eu beaucoup de, je disais, beaucoup de très belles réactions à Venise, des larmes, mais il y a aussi eu une campagne contre vous, non? Vous avez reçu aussi... je crois, des menaces de mort ?
Non, j'appellerais pas ça des menaces de mort, ça c'est pas important, hein. C'est des spams sur internet.
Non, ce qui est important, c'est cette contre-voix sur le film.
Oui, mais ça, moi, je préfère ne pas parler de ça, c'est pas important. Pour moi, l'important c'est que sa voix a résonné, le film va sortir un petit peu partout dans le monde, et on aura une projection à l'ONU la semaine prochaine, au Congrès aussi, on essaie d'organiser des projections au Parlement européen, donc c'est un film pour moi qui sort aussi du cadre de la cinéphilie classique, parce que moi je l'ai fait, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'urgence, je l'ai fait dans une intention pour qu'il fasse partie d'un changement possible, parce que c'est plus possible d'être dans ce monde-là où celui qui a le plus gros gun, désolé pour le mot, dicte sa loi, et le droit international n'a plus aucun sens. Donc il nous faut un changement, et ce film, je l'ai conçu dans ce sens-là.
En même temps, ce n'est pas un brûlot, ce n'est pas un pamphlet, c'est un film, ça reste du cinéma.
C'est un film,
non, parce que
bien
vous
sûr.
Dites, pourquoi questionner mes choix de réalisation plutôt que ce qui s'est réellement passé ?
Comment ? Pardon.
Quand on vous questionne sur la réalisation, vous dites pourquoi le questionner ? Pourquoi pas questionner ce qui s'est réellement passé ce jour-là ?
Non, mais moi,
jour-là.
J'ai aucun souci à ce qu'on me questionne ouais. sur mes choix de réalisation. Mais souvent, j'ai l'impression que dans les critiques acerbes, il y a un malaise que je peux comprendre. Ouais. Hein, parce que le film est tellement dur et met l'émotion au cœur de... Mais cette histoire est dure. Moi, j'y peux rien. Donc la vraie...
Le malaise, c'est le mélange de la réalité et de la fiction. C'est ça le malaise, il vient de là.
Je ne sais pas, oui, peut-être, parce qu'il y a des puritains du genre, mais c'est un malaise parce que ça fonctionne aussi. Mm. Parce que... et je sais que beaucoup de gens ont du mal à être émus. Ça les bouleverse, ils n'ont pas envie d'être bouleversés. Mm. Et ça, je le comprends.
Et vous êtes dans la course aux Oscars, puisque votre film va représenter la Tunisie.
Absolument.
Et il est sorti donc depuis mercredi. C'est vrai que c'était éprouvant, forcément, mais c'était un peu l'effet voulu sur les spectateurs.
Je dirais pas éprouvant,
mais
parce
c'est
que pour
difficile.
Moi,
hein, de...
Pour moi, c'est un. Il faut être témoin.
Oui.
Il faut être témoin. Oui. Il faut aller le voir. Et souvent, les gens me disent ah, peut-être c'est dur. Moi, je pourrais pas le voir. Je leur dis allez le voir. Ne restez pas dans votre bulle et faites quelque chose par rapport à ça.
Ça s'appelle La Voix de In Rajab. On s'envole maintenant vers le Brésil avec une petite escale à Cannes.
Je suis très honorée de remettre ce prix d'interprétation masculine.
Best actor goes to
Le prix
Wagner
est décerné à Wagner Moura.
J'ai eu le privilège, la chance d'avoir eu l'occasion de travailler avec Wagner. Moi, non seulement il est un acteur exceptionnel, mais c'est aussi un être humain très particulier. Je l'adore. Et j'espère que cela, cette reconnaissance va lui apporter beaucoup de choses. Merci au jury. Merci à Juliette Binoche, la présidente du jury. Merci pour ce signe de reconnaissance.
Vous n'étiez pas à Cannes ce jour-là, Wagner Moura. Est-ce que vous avez récupéré le trophée de votre interprétation? Qui vous l'a remis d'ailleurs?
Oh, it was such a beautiful moment.
Ah, c'était un moment vraiment très beau. Je l'ai reçu d'une des actrices que j'aime le plus au monde.
Juliette Binoche.
Juliette Binoche.
And it was a it was a big surprise. I wasn't expecting
that. Une grande surprise, je m'y attendais pas.
She was very generous.
Elle a été très généreuse.
Et c'était où?
Where was that? At the Louvre.
Au Louvre.
Au Louvre?
Yeah, because they have this beautiful.
Vous avez eu de la chance, on vous le pique pas.
They have these sessions there. Beautiful. It's called Cinema Paradiso.
C'est un endroit qui s'appelle Cinema Paradiso. Ils ont ça, ils ont des projections et voilà.
L'agent secret de Kléber Mendoza-Filho, je le disais, qui a aussi le prix hyper mérité de la mise en scène à Cannes. Brésil 1977, en pleine dictature, Marcelo, c'est vous. Un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé mystérieux arrive à Recife en plein carnaval. Il vient retrouver son jeune fils et espère construire une nouvelle vie, mais des menaces de mort planent au-dessus de sa tête. Vous aviez un an à cette époque, Wagner Moura. Je suppose que vos parents vous ont raconté cette époque-là.
C'est intéressant parce que j'ai beaucoup de souvenirs de l'époque. La dictature, elle s'est terminée en 1985, mais elle ne s'est pas vraiment arrêtée, elle n'a pas stoppé, en fait. L'écho de la dictature sont toujours là, présents au Brésil.
Bolsonaro
en est une manifestation concrète. Naturellement, j'ai des souvenirs de la façon dont mes parents s'habillaient. Je peux ouvrir un album de photos, si vous voulez. Et aussi, j'ai réalisé un film sur Carlos Marighella, qui dirigeait la résistance. Il était assassiné au Brésil. Et donc, j'avais pas mal étudié cette époque sur le Brésil à l'époque.
Enfant, Kléber dit qu'il a vu des gens morts dans la rue. Il vous l'a raconté, ça. Il vous a raconté sa vision de la dictature au Brésil.
Non.
But I wouldn't be surprised.
Mais ça me surprend pas.
But no, we never talked about.
Mais non, on n'a pas parlé, non.
It's interesting because this is a reality in Brazil. But
ce qui m'intéresse, c'est que c'est la réalité du Brésil.
Today,
mais à ce jour,
mostly not for people that live that middle class.
Pas pour les gens de la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure.
Favelas,
c'est plutôt la réalité des gens qui habitent les favelas.
Recently,
récemment.
Killing.
Il y a eu des tueries de la police.
And you had that despicable image of
et on avait cette...
20 human beings dead.
Et on voyait des centaines de gens morts comme ça, qui étaient morts comme ça, et c'était vraiment honteux.
Marcelo, lui, est un non-violent, un universitaire et chercheur bafoué et déchu dans le viseur donc, du pouvoir en place. Mais Wagner Moura, le simple fait d'être honnête, de ne pas adhérer au régime pouvait mettre peut mettre la vie en danger, votre vie en danger.
Yeah, that's one of the things that
moved me a lot in this film because I ému parmi les choses qui m'ont beaucoup ému sur ce projet. J'avais réalisé donc un film sur un homme qui voulait renverser le gouvernement. Et là, c'est juste un type qui veut simplement être honnête par rapport à ses valeurs.
And those are the most of the victims of
et la plupart des victimes de la dictature, c'était des gens comme lui.
Quand
votre vie devient sous menace tout le temps, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, les idées politiques, la religion que vous avez choisie. Et c'est ce qui existe hein, dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui.
On va écouter un petit morceau de ce film.
Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro.
Eu tô ameaçado de morte.
Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com um martelo.
Il a une voix très douce, votre personnage d'ailleurs, très calme. Ce qui est magnifique aussi dans ce film Wagner Moura, dans L'Agent Secret, c'est que d'abord, le nom n'est jamais prononcé de dictature, mais qu'on la ressent partout. C'est-à-dire que le film montre aussi qu'on peut résister à la dictature en vivant, en faisant l'amour, avec des moments de bonheur aussi. C'est ça qui est très beau dans ce film.
I love that about this film.
J'adore ça, et j'adore ça vraiment dans ce film. Je me rappelle quand je tournais Narcos en Colombie, dans les années 80, Bogota, c'était une des villes les plus dangereuses du monde. Et je demandais à mes amis colombiens, alors bah, c'était comment de vivre à Bogota? On sortait, on allait au bar, on continuait nos vies, on voyait nos amis, on essayait de garder une sorte de normalité.
And I love this about this
Et
film.
J'ai adoré cette attitude. On voit des gens qui s'amusent, qui font l'amour. J'aime voir des personnages dans les films qui veulent vivre. Et c'est pour ça que votre film, Madame, que je n'ai pas vu encore, bien sûr, c'est un film sur la situation la plus terrible du monde aujourd'hui. Cette petite fille, elle voulait vivre et protéger sa famille. Ça m'émeut énormément. J'aime voir des personnages dans les films qui expriment leur désir de vivre. J'aime voir des personnages qui dansent, qui s'expriment par leur corps.
And this is very one of the scenes that I like
most in aussi
the character realizes
dans
that
notre
he's
film,
being persecuted
c'est qu'il y a un personnage qui est persécuté par des
and there is carnival going on
et il sort tout d'un coup il est poursuivi et il est dans le carnaval est dans toute la ville et il s'exprime right par son corps alors qu'il vient d'apprendre des nouvelles terribles.
Kleber Mendoza, Philo, est un très grand cinéaste et très cinéphile aussi, et ce qui est également assez beau dans ce film, c'est qu'il met de la culture populaire dans le récit. Il y a tout un truc autour des dents de la mer, mais dans l'idée que c'est effrayant ce qu'on voit à l'écran, mais c'est effrayant en même temps ce qu'on vit. C'est comme une métaphore.
Yes, it is, and I love the fact that Kleber.
Tout à fait. Et j'aime beaucoup le fait que Kleber.
As he used to be a film critic, so
parce qu'il a commencé en tant que critique. Il a des références. Mais il arrive toujours à faire de ces références, à faire quelque chose de très brésilien. C'est des éléments de la culture brésilienne. C'est pas que ça faisait peur, mais je dirais que c'était beau de voir ce cinéaste jongler avec toutes les références qu'il a en tête et qu'il arrive à en faire quelque chose de très brésilien.
Votre personnage, d'ailleurs je dis votre personnage, vos trois personnages, plus jeune actuellement et à la fin un autre personnage que je ne dévoilerai pas ici, mais sacré défi ça quand même, hein.
It was great for me, I mean, as an actor. C'était très enthousiasmant pour moi en tant que comédien.
But because I got to play, I don't know if we should talk about this.
Alors, puisqu'effectivement, bon, peut-être
à
faudrait pas le dire.
Jeune.
A very interesting character, but
je joue en tout cas quelqu'un de très intéressant. Mais voilà un film.
I can't wait to see your film now.
Mais vous, madame, je suis impatient de voir votre film.
Our film is also
parce que
a film
le nôtre,
about memory,
c'est un film qui parle de la mémoire et de l'importance. De la mémoire, de l'histoire. Au Brésil, on a un problème d'amnésie. C'est pas par hasard.
En
1979, on a vraiment eu une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie qui a finalement pardonné les gens qui avaient fait des kidnappings et qui avaient des tortures, etc. Et qui avaient vraiment complètement fait du mal à la population. Maintenant, aujourd'hui, Bolsonaro est accusé, et j'ai l'impression que le Brésil commence à finalement régler ses comptes avec le passé, devant les et par les nouvelles générations. L'histoire doit être racontée, et racontée telle que ça s'est passé, et les voix doivent être entendues. Et donc sans trop spoiler le film, il y a un personnage dans le film qui est très jeune. Et cette jeune brésilienne, elle offre ses souvenirs à mon personnage. Et c'est une des choses les plus belles qu'on peut voir dans ce film.
Oui, et dans le film on entend aussi quelqu'un qui dit, je ne sais plus qui le dit, un jour le Brésil paiera très cher pour tout ça.
Yeah, and at the same time, the character says.
Et en même temps, le personnage, non.
Oui.
No, we will not.
Non. On peut.
But we hope we will. I think it's a film that points to
c'est un film qui,
to an optimistic future.
Qui penche vers l'optimisme.
I like to say that I'm very pessimistic about
the
present.
Je suis quelqu'un de très pessimiste sur le présent, mais très optimiste sur l'avenir.
Vous vouliez être journaliste, Wagner Moura, mais est-ce que vous ne l'êtes pas un peu en portant ces rôles, ou même en réalisant un film sur ce leader communiste?
I think I'll always be a journalist.
Je serai toujours journaliste, je pense. Et je suis très fier d'avoir étudié ce métier. Le journalisme, c'est quelque chose de très important, c'est un pilier de la démocratie. Ça me fait peur, vraiment. La façon dont aujourd'hui les gens reçoivent l'information, il y a une décadence du journalisme, même pas seulement économiquement, même pas le business, mais aussi l'éthique. Attaquer un journaliste, c'est devenu quelque chose de possible. Et ça me fait peur. Et ça revient aussi à l'histoire de la mémoire, de cette histoire de mémoire. Il faut penser qu'aujourd'hui, le journalisme a été très très important. Il a un rôle très important à avoir avec la mémoire. Et c'est pas par hasard que les gouvernements autoritaires attaquent les journalistes, les artistes, et aussi les universitaires.
Sont
tous les trois des domaines qui sont responsables de garder, de transposer, de transmettre la vérité.
Et même en Amérique, Wagner Moura, vous réussissez à faire des films politiques parce que vous étiez dans Civil War, qui était un portrait terrible de l'Amérique de maintenant, dans lequel vous jouez un journaliste tête brûlée, justement.
I tend to gravitate
c'est vrai que j'ai tendance à être attiré par des films politiques sur la justice sociale. Je viens d'une région qui est sans doute une région avec énormément d'inégalités sociales. C'est très important pour moi, l'idée de la vérité et l'importance des faits. ce qui est le travail d'un journaliste. Les faits, quelque part, ça n'existe plus. Il s'agit de versions de la réalité qui s'affrontent.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez justement, Kauter, de ça? Parce que sur la limite des journalistes, ou même le manque de crédit dont ils bénéficient, et donc il faut faire du cinéma pour ça alors? Le cinéma serait plus fort comme message.
C'est différent. Ouais. Je vois absolument de quoi il parle. Et on le voit encore une fois à Gaza. Le nombre de journalistes assassinés, ça dépasse l'entendement. Le nombre d'universités bombardées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais effectivement, là où je le rejoins, on vit dans un monde où on est informé par les réseaux sociaux. Et il y a cette installation de l'amnésie, parce qu'il y a un flux tellement important d'informations dans tous les sens qui fait qu'on ne prend jamais le temps pour comprendre. Et je pense qu'il fait référence au journalisme d'investigation,
oui,
qui devient de plus en plus rare parce que ça demande beaucoup de courage. Et par exemple, je veux mentionner dans ce cadre une investigation du Washington Post sur l'affaire de Hind Rajab qui ont détaillé preuve à l'appui comment ça s'est passé, son meurtre, et c'est l'une des pièces sur lesquelles je me suis basée dans mon travail, et c'est ce genre de journalisme qui manque. Il manque aussi parce qu'on leur rend la vie impossible. On voit très bien que Gaza, par exemple, est fermé aux journalistes, les journalistes gazaouis sont tués, donc on vit dans une époque qui fait vraiment, vraiment peur.
The fact that journalists were forbidden to go to Gaza, soit interdit d'accès à Gaza, ça veut dire quelque chose.
Vous êtes brésilien, mais aux États-Unis, vous êtes permis de critiquer Donald Trump, par exemple?
All the time.
Tout le temps.
This is all I do.
Je ne fais que ça. Et comment ça se passe, alors? Are you
okay with this? At least not for now. I mean,
pour l'instant, ça va.
There was a conversation about them.
Il y a eu tout un débat.
Taking my visa back,
but il a été question que mon visa soit retiré.
But it's still, I think that the American institutions are starting to wake up because
je crois que les institutions américaines commencent à se réveiller.
I always compared like the Brazilian
je compare toujours
the coup d'état that they tried to do in Brazil.
La réponse des Brésiliens au coup d'État qui a été assez forte, la tentative de coup d'État. Et c'est la même situation aux États-Unis. Quelqu'un qui nie les élections, quelqu'un qui encourage les gens à se rebeller contre les institutions, c'est la même chose. Mais la réponse des Brésiliens a été rapide. Et qu'ils ont mis les financiers, tout ça, et les responsables en prison. Je ne dirais pas que c'est une démocratie très forte, mais ça n'est plus une dictature.
Et
je pense que les Américains prennent la démocratie comme quelque chose qui est acquis. Mais j'ai l'impression qu'ils se réveillent aujourd'hui. C'est quelque part le résultat des gouvernements autoritaires. La réalité éclate. C'était le jugement optimiste de ce magnifique acteur dans ce très beau film de Kleber Mendoza Filho qui s'appelle L'Agent Secret et qui sort le 16 décembre. Et ce très beau film de Kauter Benania qui s'appelle La Voix de Hind Rajab et qui est sorti mercredi. On se retrouve pour les sorties.
Es una perla, nadie se fía. falsa terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad.
Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Eh bien, on va commencer avec Bugonia de Yorgos Lanthimos. Les films démarrent sur les abeilles et glissent vers cet apiculteur victime, dit-il, des néonicotinoïdes qui les tue avec son cousin légèrement attardé. Obsédé par les théories du complot, il kidnappe la PDG d'une grande entreprise, c'est Emma Stone. Convaincue qu'elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète. Elle, donc, c'était Emma Stone, et le film, un remake du coréen Save the Green Planet, plus déjanté s'il était possible que celui-là, comédie outrancière, fable écolo qui raconte la paranoïa contemporaine avec de très bons côtés et d'autres beaucoup plus faibles, comme cette préparation interminable de l'enlèvement, mais au cœur du film une fascinante scène de repas entre elle et ses deux geôliers, un dialogue de sourds sur l'idée de comment convaincre un complotiste, du contraire, c'est impossible.
Oui, moi j'y ai vu d'abord essentiellement une grosse farce avec alibi écolo, grosse ficelle scénaristique, gros dialogue qui lorgne vers les frères Cohen sans jamais, hélas, atteindre leur causticité. Et puis il y a toujours chez Lanthimos cette façon de regarder l'humanité et ses personnages de loin, de très très loin, comme s'il était un savant fou dans un labo qui ne cesse d'expérimenter les limites de la pauvre Emma Stone, parce que de film en film, on se demande jusqu'où ira-t-elle ou ira-t-il dans les outrages du corps d'Emma Stone. Alors reste une scène finale absolument extraordinaire, je n'en dirai rien bien sûr sur le contenu, mais c'est d'abord la chanson de Pete Seeger pour Marlène Dietrich qui est en lumière, et ainsi Lanthimos, quand c'est bien, ben c'est pas de lui.
Je n'avais que le néant. Cette phrase est extraite d'une autre phrase. La réalisation de Shoah a été une longue et difficile bataille. Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. C'est un doc donc signé Guillaume Ribaud, qui revient avec une voix off sur les mots de Claude Lanzmann, extrait de ses mémoires et ses archives personnelles. Sur ses 12 années de travail, ses milliers d'heures de préparation, Laurent, des voyages aux quatre coins du monde, des dizaines de témoins et autant de doutes, de déboires et de fausses routes. Un exercice de transmission sur le risque pris et l'énergie déployée par Lanzmann pour, je cite, regarder le noir soleil de la Shoah.
C'est un drôle d'objet cinématographique parce qu'effectivement, il pourrait presque s'avérer être la meilleure porte d'entrée à l'œuvre essentielle de Lanzmann, d'où son titre Shoah par Lanzmann. Ce film s'adresse d'abord, me semble-t-il, à ceux qui n'ont jamais vu Shoah. Ils en découvriront ainsi la simplicité, en quelque sorte, la singularité de la démarche, son processus, son fonctionnement. Mais les autres, ceux qui ont déjà vu Shoah, trouveront du profit à regarder et à aimer le film de Ribaud. Un film qui est un formidable portrait de Lanzmann lui-même, l'auteur d'une œuvre maîtresse, indéplaçable, incontournable, et le film s'en fait l'écho.
Au titre magnifique, je n'avais que le néant. Vie privée, Rebecca Zlotowski, Liliane Steiner, si je dis Foster, est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.
Oui, alors on le sait, depuis Hitchcock ou Woody Allen, la psy au cinéma, ça marche, ou plutôt ça roule, tant le bon docteur Freud semble être une machine à scénario réjouissante et efficace. Zlotowski, en pleine possession de ses moyens cinématographiques désormais, confie à Jodie Foster le rôle de cette psy. Elle est plus que parfaite en Sherlock Holmes du divan, tout comme l'ensemble du casting d'ailleurs, Daniel Auteuil en tête, sans oublier un Frédéric Wiseman en vieux psy-mentor. C'est rapide, c'est vif, c'est enlevé, et c'est terriblement intelligent. Zlotowski s'amuse, et nous avec. Et qu'est-ce que ça fait du bien ?
Je dois faire mon mea culpa, Laurent. J'ai mal regardé ce film à Cannes. Et 6 mois plus tard, je le redécouvre. Vie privée n'existerait pas sans elle, bien sûr, Jodie Foster. Et c'est comme si ce film lui disait « Tu es en France, Jodie, tu peux tout te permettre. Tu peux fumer sans te cacher, comme la plupart des héroïnes américaines. Tu peux boire beaucoup, tu peux jurer. Arrêtez de me faire chier, dit-elle en français dans le film. Et surtout, tu peux sortir de ta panic room et jouer dans une comédie sans te prendre au sérieux. La France et Rebecca Zlotowski t'offrent l'irrationnel et ça fait du bien de te voir finalement lâcher prise. Ça s'appelle Vie privée. Oui. Queer panorama du cinéaste hongkongais Jun Lee. À Hong Kong, donc, un homme se glisse dans la peau de chacun de ses amants, s'appropriant leur personnalité au gré de ses rencontres.
Oui, alors c'est d'abord un très très bel objet formel, cinématographique, avec plans, séquences, et en longueur, et noir et blanc. C'est ensuite un autoportrait du cinéaste, à travers son personnage principal, nommé juste I, lequel rencontre, comme par hasard, certains anciens amants du cinéaste lui-même. Donc, on tente évidemment l'autofiction. C'est enfin un très beau film, tout simplement, parce qu'il il y a une mélancolie puissante qui en sourd au fil du film et qui pourrait faire songer à du Jarmusch quand il est à son meilleur.
L'intermédiaire de David Mackenzie, un fixeur de renommée mondiale spécialisé dans la négociation de paiement entre entreprises corrompues et ceux qui menacent de les faire tomber, est habitué à garder son identité secrète mais voit son univers basculer lorsqu'une nouvelle cliente sollicite sa protection pour rester en vie. New York, nocturne, stressant, grande précision de la mise en scène, un premier acte, un deuxième acte plus classique, plus démonstratif, mais jusqu'à ce twist final, Laurent.
Oui, alors c'est une machinerie qui lorne quand même vers le Coppola de Conversation secrète ou le Lumette des Trois jours du Condor, Dieu sait si on aime ces films, ces grands films sur la paranoïa américaine et la société de surveillance de plus en plus grandissante. Certes, il y a l'originalité relative du procédé avec ce service téléphonique qui est au centre de l'intrigue, mais l'ensemble est quand même platement filmé, l'intrigue s'essouffle, le scénario est à la peine, on attendait une atmosphère oppressante et haletante, c'est tout juste un petit filet d'eau tiède inquiétant.
À partir de 3 ans, on peut voir La Petite Fanfare de Noël, 4 courts-métrages signés Meike Ferre et Sabine Dully en 2D et une pointe de 3D pour les décors. Ces films qui vous demandent d'écouter cet hymne à l'entraide, Laurent.
Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut même aller jusqu'à 103 ans pour les voir, parce que c'est 45 minutes venues d'ailleurs pour nous régaler, 4 courts destinés aux plus petits, vous le disiez, mais qui se regardent avec beaucoup de plaisir, parce que notamment tout est musical, et sans être niaiseux, tout est drôle aussi, avec l'idée, ben, comme fil conducteur, que l'hiver et le froid peuvent être des saisons et des couleurs chaudes.
Et enfin une reprise Malina de Werner Schroeter avec la grande Isabelle Huppert.
C'est Isabelle Huppert en majesté dans l'un de ses rôles principaux avec un réalisateur avec lequel elle a eu un formidable dialogue.
Deux festivals, Laurent.
Oui, vous irez d'abord, nous irons d'abord à Poitiers du 28 novembre au 5 décembre. C'est, vous savez, Poitiers, c'est là où convergent les meilleurs films des écoles de cinéma. C'est donc une proposition incroyable. Il y a 48 cours en compétition notamment. Il faut découvrir les nouvelles pousses, les futur pouce du grand cinéma de demain. Et puis, à Royan, du 3 au 7 décembre, c'est l'engagement dans les films qui est mis en avant, focus sur le cinéma américain, focus sur le cinéma espagnol, et une compétition autour du cinéma social contemporain.
Et maintenant, les cadeaux pour les nos cadeaux. Invités.
Voilà. Pour Kauter Benania, on a pensé à La Leçon de Piano, juste ce film de Jane Campion, l'une de vos consoeurs au cinéma. Bien sûr, coffret collector chez Carlotta.
On a du temps, Laurent.
Mais comment vous l'avez su, c'est l'un de mes films préférés.
C'est vrai.
Mais parce qu'on aura tout vu, on sait tout. bien entendu, c'est la promesse.
C'est vrai, c'est un de vos films préférés ?
Ouais, Jane Campion, c'est un rôle modèle pour moi. Je la regarde... Voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément.
Eh bien, on est très heureux de vous offrir ce
vous
très beau...
Vous l'avez rencontré ? Pardon.
Non, j'en prie.
Vous l'avez rencontré ?
Oui, absolument, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et on va se voir bientôt.
Ah bon, vous avez un projet en commun ?
Non, mais... Non, j'en dirai pas plus.
D'accord.
Tant pis pour nous. C'est chez Carlotta, c'est un très beau coffret collector avec un livret de 200 pages. Je pense que même vous qui aimez le film, vous apprendrez des choses sur ce film qu'on pourrait résumer par la belle... Le bête et le piano. Voilà. Et c'est chez Carlotta, je le répète, merveilleux coffret collector. Et puis toujours chez le même éditeur pour Wagner Moura. Eh ben, on a pensé que Yi Yi d'Edward Yang, ce pur chef-d'œuvre d'un metteur en scène trop tôt disparu, prix de la mise en scène à Cannes en 2000, restauration et Blu-ray au programme, de ce là aussi très beau coffret avec des commentaires d'Olivia Sayas, de Jean-Michel Frodon, un fac-similé du dossier de presse, des affiches, des photos. Enfin bref, ça fait partie des cadeaux parfaits pour cette fin d'année. On est heureux de vous l'offrir.
Assayas, avec lequel vous avez tourné.
Yes, et bien sûr. Oui.
I just sent a message to him.
Je viens de lui envoyer un message en arrivant ici au studio.
Je voulais
Thank you very much. I have never
Merci
seen
beaucoup.
This
je n'ai pas vu ce film encore.
Je voulais dire une dernière chose à propos du film de Kleber Mendoza Filho. C'est un très bel hommage au cinéma et c'est et ça prouve qu'une salle de cinéma peut aussi sauver des vies. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale et Rémi Sistiaga aux manettes ce matin. Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.